Maintenant, nous demandons à Frère de venir, de revenir, mais nous remercions Dieu pour tout. Je me souviens de réunions à Madras où nous avions plus de 10 000 personnes. Dieu nous a fait la grâce de pouvoir annoncer sa parole à beaucoup, beaucoup de gens. Et comme notre frère l'a raconté, il y a toujours eu des périodes où des enseignements particuliers sont apparus et il a toujours fallu ordonner les choses et remettre les choses dans le contexte. Mais Dieu soit loué pour sa parole. Si nous avons rendu juste, si nous avons parlé juste, c'est uniquement conformément à la parole de Dieu. Ça, c'est notre lumière et notre droit. Dans l'Ancien Testament, Aaron avait un pectoral. Il contenait alors les 12 pierres des 12 tribus d'Israël. Et si ce qui était dit était vrai, était juste, alors la lumière s'allumait. Et si la lumière ne s'allumait pas, alors ce qui était dit n'était pas vrai. Notre lumière et notre droit sont les Saintes Écritures. Si elle ne s'allume pas, si elle reste obscure, sans clarté, désordonnée, pas dans son contexte, déclassée, elle ne vient. Cela, ce qui est dit et prêché ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu de vérité, un Dieu de clarté. Il a révélé toutes choses et les a réunies. Je me souviens d'un jour particulier dans la ville de Madras. Nous avons baptisé avec quelques frères dans un établissement de bain, donc de piscine. Et nous avons baptisé à trois. J'ai compté les personnes que j'ai baptisées. Il y en avait 129. Je ne sais pas combien les deux autres en ont baptisé pendant ce temps-là. Pourtant, Dieu a déjà fait de grandes choses. Nous l'avons dit ici hier soir. Ce qui se passe au Zaïre et dans d'autres pays, que des milliers et des milliers y viennent à la connaissance de la vérité. J'ai ici un sermon de frère Branham, le troisième pull, et ici frère Branham dit, il y a des milliers et des milliers qui croient cela et qui s'accrochent à chaque parole. Nous aimerions que le plus grand nombre possible vienne. Si nous sommes prêts à tenir ces réunions pour la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Nous avons confiance que Dieu nous l'accordera. Il ne veut pas seulement le faire, il veut aussi donner l'inspiration divine. Il y a tant de choses pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Il y a aussi d'autres choses qui nous attristent. Mais nous devons nous décider de quoi nous nous occupons. De quoi est-ce que nous voulons nous occuper? Et de quoi nous voulons nous occuper? Si nous considérons la vie de notre Seigneur, lorsqu'il marchait sur terre, il est effectivement dit que même ses frères ne croyaient pas en lui. Cela a dû être très difficile, très grave. Sous le même toit, avec le Seigneur dans son humanité, dans son corps terrestre. Et pourtant, ses frères ne croyaient pas. Qui étaient si proches de lui ne croyaient pas. Cela a dû être douloureux. Mais il est aussi écrit qu'un prophète n'est rien dans sa maison. rien dans sa ville. Oui, donc nous prenons tout comme Dieu l'a ordonné. Sa parole est vraie en tout point, en tout point. Elle le restera jusqu'à la fin. Que cela nous plaise ou non, il ne s'agit pas seulement de famille terrestre, il s'agit de la famille de Dieu, de tous ceux qui ont été élus avant la fondation du monde. Mais il y a encore certaines choses qui nous touchent de très près, surtout lorsque des malentendus surgissent. J'ai entendu de la part du couple qui est au Zaïre, qui est du Zaïre, qu'il y a aussi des besoins là-bas, des difficultés là-bas, et cela fait mal. Fait mal. Ce que nous préférerions, c'est que tout le monde soit et ait la clarté et que personne ne comprenne quelque chose mal. Que ce soit que tous ceux qui prêchent la bonne parole, la parole juste et correcte, et que celui qui porte le message sans rien ajouter et rien en retrancher. Il est écrit dans les prophètes que celui qui a un songe le raconte comme un songe, mais que celui à qui ma parole a été donnée proclame ma parole selon la vérité. Et derrière cela, il est ensuite écrit, et après cela, il est ensuite écrit, quel est le rapport entre la paille et le blé? Le blé est précieux, la paille était nécessaire, la tige était nécessaire, l'épi était nécessaire. C'était des stades de croissance, mais il ne s'agissait pas de la tige, il ne s'agissait pas de l'épi, parce qu'il sera un jour de livret. Il s'agit du blé qui arrive à maturité dans cet épi. Et nous sommes convaincus que nous vivons à l'époque où les choses de Dieu arrivent à leur terme. Il s'agit, l'œuvre de Dieu arrive à son terme. Et il s'agit pour nous de faire en sorte que la fin soit égale au commencement. Je voudrais brièvement lire et développer quelque chose et exposer quelque chose. Nous sommes reconnaissants à Dieu de nous donner la possibilité de nous réunir ainsi, d'écouter sa parole en toute liberté, dans une double liberté. La liberté de l'esprit et la liberté terrestre dont nous jouissons encore. Pour cela aussi, nous sommes reconnaissants à Dieu de tout cœur. Parfois, les hommes n'ont pas la liberté terrestre, mais ils ont la liberté divine. Selon la parole de l'Écriture, si le Fils de Dieu affranchi, celui que le Fils de Dieu affranchi, il est vraiment libre, non plus lié par des statuts ou d'autres choses, des credos, mais libre en esprit. Mais dans les limites, toujours dans les limites dans le cadre de la parole, la liberté divine est dans le cadre de la parole, dans les limites de la parole. La parole n'asservit pas, la parole libère les asservis. Il est écrit de notre Seigneur qu'il est venu annoncer aux captifs leur libération, leur délivrance, et proclamer l'année agréable de l'Éternel, l'année du jubilé. Je voudrais m'arrêter un instant sur Ésaïe 48 et je vous demande à tous de recevoir la parole, d'accepter la parole. La parole accomplira alors ce pourquoi Dieu l'a envoyé en vous. Pas un homme, mais c'est la parole qui le fait. Et c'est elle que vous devez recevoir et accepter afin que Dieu reçoive toute la gloire. Nous avons également lu cela. ceci. Le Seigneur dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Et au verset 3, nous avons lu dans Ésaïe 48, les anciennes prophéties que j'ai annoncées auparavant, de ma bouche elles sont sorties. Et je les ai fait connaître. Il a fait les deux. Il a donné sa parole. Il a parlé à nouveau quand le temps de l'accomplissement était arrivé. Et ensuite, il est écrit, « Soudain, je les ai accomplis, la deuxième partie du verset 3, de sorte qu'elles se sont réalisées. » Nous pensons parfois que cela dure si longtemps, que Dieu aura besoin de nombreuses années pour achever son œuvre. Ce n'est pas forcément le cas. Il nous faut beaucoup de temps. Et quand nous regardons autour de nous, nous n'avons pas fait grand chose pendant tout ce temps. Ça, c'est nous, les hommes. Mais Dieu, lui, peut faire beaucoup en très peu de temps. Et l'œuvre finale sera une œuvre courte. Ce sera une œuvre puissante. Et ce ne sera pas l'œuvre d'un homme. Mais ce sera l'œuvre de Dieu. Mais dans les hommes qui ont reçu la parole, à savoir la parole de la promesse divine pour ce temps. Et nous pouvons en faire partie, et c'est pourquoi nous attendons à juste titre que Dieu accomplisse son œuvre. Si nous n'avions pas les promesses, nous ne saurions même pas ce que nous devrions attendre. Nous ne saurions même pas à quoi nous attendre. Nous ne saurions pas ce qui doit arriver. Mais Dieu a eu pitié de nous. Il nous a fait grâce. Il a envoyé son prophète et nous a révélé la parole prophétique pour nous faire savoir ce qu'il a dans son plan de salut. Nous le croyons et nous l'attendons. Et nous n'attendons pas en vain. Car ce que Dieu a dit, il le tient certainement. Cela s'accomplira. Comme l'a dit le prophète, si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Gloire à notre Dieu. Nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais la parole véridique de Dieu, la véritable parole de Dieu. Et il serait souhaitable que nous soyons tous pénétrés de cette véracité de Dieu. Que cette parole puisse produire quelque chose en nous personnellement. Que nous soyons soumis à Dieu et qu'il parvienne à ses droits en nous et reçoive ce qui lui revient de plein droit en nous. Il est écrit ici, il est dit ici au verset 6, vous l'avez entendu, considérez-le maintenant tout entier et vous ne témoigneriez-vous pas, mais désormais je te ferai entendre des choses nouvelles et des choses secrètes dont tu savais rien. Désormais je vous ferai connaître des choses nouvelles, tenues secrètes, dont vous n'avez pas eu connaissance. Ce n'est que maintenant, que cela s'accomplit maintenant, pas avant, pas il y a 200 ans, pas il y a 20 ans, mais maintenant. Nous croyons que Dieu a fixé un temps pour tout. Nous avons lu deux passages hier soir. Dans les deux, il y avait le mot « au temps fixé ». Romains 16, les derniers versets, et Tite 1, les premiers versets. Dans les deux passages, il est écrit « au temps fixé. Au temps fixé. Dieu a un temps fixé et son temps n'est pas notre temps. Et notre temps n'est pas son temps. Il dit, votre temps est toujours venu, mais mon heure n'est pas encore venue. Quand l'heure de Dieu viendra, il se lèvera. Il lèvera il lèvera aussi sa droite. Et c'est alors que cela se produira. C'est ce que nous attendons à juste titre. Parce que Dieu l'a dit ainsi. Dieu a fait la promesse. Nous l'avons reçue. Nous y croyons. Et nous comptons. Et nous comptons dessus. Oui, nous attendons même qu'elle se réalise. Qu'elle se réalise. Je lis encore un peu du même chapitre, du verset 17. Ainsi a parlé l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. C'est moi, l'Éternel, ton Dieu, qui t'enseigne à faire ce qui est pour ton salut, qui te guide dans la voie que tu dois suivre. Amen. C'est lui. Ce n'est pas l'un qui enseigne l'autre, mais c'est lui qui nous enseigne tous. Il nous montre son chemin. Le chemin du salut. Et ça, nous le croyons aussi de tout cœur. Maintenant, il y avait aussi un reproche. Chez Dieu, il y a toujours à la fois la louange et le blâme. Et il s'adresse au même peuple dans les deux cas. Vous pouvez lire cela dans les sept épîtres, dans les sept écrits dans Apocalypse 2 et 3, dans les sept écrits, il y a la louange et le blâme. On peut le lire et le relire. Il y a toujours un tel et un tel. Pour les uns, c'est l'une des choses qui s'applique, et aux autres, c'est l'inverse qui s'applique. Nous croyons que Dieu a en ce moment, dans ce temps, des hommes, des personnes prêtes à accepter le blâme, prêtes à accepter l'enseignement. Car ce sont ceux-là que Dieu aide. Celui qui n'est pas prêt à accepter les reproches, celui qui les refuse, ne peut pas être aidé. Lorsque le Seigneur Dieu du premier âge de l'Église dit que tu es aveugle, pauvre et nu, tu es aveugle, pauvre et nu, etc. Ne pensez pas dans votre cœur, Seigneur, cela ne s'applique pas à moi, je ne suis pas concerné. Cela ne peut pas être vrai. Je vous le dis, c'est vrai. Mais je vous dis aussi qu'il ne s'agit pas d'un état qui demeure, mais d'un conseil. Je te conseille d'acheter de moi de l'or Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. L'état est décrit correctement, mais l'épouse ne reste pas dans l'état de l'Église. Nous avons reconnu cet état, notre état, nous avons dit oui et nous avons en même temps reconnu que le Seigneur est venu à notre rencontre qui nous a fait cadeau d'un collier. Nous qui pensions autrefois pouvoir voir, nous avons réalisé que nous n'avions pas vu les choses. Un collier. Nous qui pensions autrefois pouvoir voir, nous avons réalisé que nous n'avions pas vu les choses. Et c'est pourquoi Dieu a pu nous ouvrir les yeux pour que nous puissions les voir, comme il est écrit ici. Tu ne l'as pas vu avant, tu ne l'as pas su avant. Et ça, c'est l'état de Laodicée. Et tous ceux qui reconnaissent maintenant qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas su, ceux-là verront pour ceux-là et ceux-là sauront ces choses. Mais tous ceux qui s'obstinent à dire, « Ah, nous savons, nous connaissons, nous ne sommes pas. » Cela ne nous concerne pas. Nous, ce n'est pas comme ça que ça marche. Nous devons d'abord donner raison à Dieu. Et ensuite seulement, nous pouvons être aidés. Il nous révèle notre état, nous l'acceptons et ensuite il nous aide. Celui qui contredit Dieu est en rébellion contre lui. Et frère Branham l'a dit, de la semence de la semence de discorde, de la rébellion. C'est aussi une semence, mais une rébellion intérieure. Merci à notre Dieu. Merci à notre Dieu qui nous a aidés et qui continuera à nous aider jusqu'à ce que nous passions de la foi à la vue. Je voudrais ajouter ici comme remarque ceci, que nous ne nous facilitons pas les choses et la tâche. Je suis conscient de ma responsabilité devant Dieu. Et souvent, je ne veux pas moi-même être dans mes souliers, dans mes chaussures. C'est justement à cause de cette responsabilité. Je n'aimerais pas être moi-même dans mes propres souliers, dans mes propres chaussures. Mais je m'examine devant la face de Dieu. Et je prends la parole de Dieu sans la tordre à gauche et à droite, sans en tordre son sens à droite, à gauche et à droite. Et je trouve là-dedans toujours, dans la parole de Dieu, la réponse et la confirmation que ce que nous croyons est vrai. Parce que c'est la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu a toujours raison. Pas l'homme, mais la parole. Et il n'y a pas non plus d'homme qui soit une autorité divine. Cela n'existe pas. Il n'y a que des gens qui acceptent l'autorité divine de la parole. Certains disent que frère Branham était une autorité. Il était exactement une autorité comme vous et moi. Mais il avait une vocation particulière, un appel particulier. Et c'était l'autorité divine. L'autorité de la parole de Dieu. Et cela reste ainsi jusqu'à la fin. Ce n'est pas l'homme qui est une autorité, mais la parole est l'autorité divine que cet homme prêche. Et nous nous inclinons sous cette parole qui est prêchée et demandons au Seigneur de nous mettre en parfaite conformité, en parfait accord avec la parole. Le reproche est le suivant, au verset 10, Ésaïe 48, maintenant verset 10. « Sache bien que je t'ai purifié, mais que je ne t'ai pas trouvé comme de l'argent. » Il a purifié. Il a purifié. Il dit « Je t'ai éprouvé dans la fournaise de la souffrance. » Le reproche, le blâme est ici, je t'ai purifié. Mais je ne t'ai pas trouvé comme de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de la souffrance. Il se peut que Dieu veuille purifier, qu'il fasse venir certaines choses sur notre vie, des choses qu'il permet, des épreuves qui peuvent devenir très chaudes, mais dont le but final doit être que Dieu nous ait aidés, que la purification en ait valu la peine, qu'à la fin les choses soient devenues claires et que l'épreuve en ait valu la peine. Qu'à la fin, les choses soient devenues claires. Dans Jérémie 6, à partir du verset 27, il est dit, Jérémie 6, verset 27, « Je t'ai établi inspecteur de mon peuple. Je t'ai établi inspecteur de mon peuple, contrôleur des métaux, pour connaître et éprouver leur façon de vivre. » Je ne vais même pas continuer à lire. Vous connaissez ce verset biblique? c'est un blâme. Mais je pense à un autre passage tiré du prophète Daniel. Beaucoup seront purifiés et épurés, et blanchis, Daniel 12, et la connaissance augmentera. Au chapitre 6 de Jérémie, au verset 16, il est écrit, « Ainsi parle l'Éternel, tenez-vous sur les chemins, regardez, et sondez les sentiers d'autrefois. Lequel est la voie du salut? Marchez-y ensuite. C'est ainsi que vous trouverez le repos de vos âmes pour vos âmes. Amen. Tenez-vous là et recherchez les temps anciens, les sentiers des temps anciens, afin que nous puissions trouver la voie du salut et y marcher. Non seulement trouver la voie du salut, mais aussi y marcher, c'est-à-dire demeurer dans la vérité. Et si vous y marchez, vous trouverez le repos pour vos âmes. Je pense à une parole de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Il est écrit Hébreux, chapitre 4, verset 3. Mais nous qui sommes parvenus à la foi, Hébreux 4, verset 3, nous entrons dans le repos. Nous entrons dans le repos. Toute agitation est terminée. Nous nous reposons en Dieu. Nous nous reposons dans l'œuvre accomplie de Dieu. Je voudrais encore lire un peu de cette prédication. Quelques pensées qui me sont devenues précieuses. C'est le sermon, le troisième exode. Le troisième exode, alors pas le troisième pull, c'était une erreur, c'est le troisième exode. Nous savons ce qui s'est passé lors de l'exode. Il y avait d'abord une foule mélangée, puis le tri s'est fait lors du premier exode. Et il y avait de moins en moins. Et là aussi, c'est déjà accompli celui qui, où il est écrit, car celui qui persévère jusqu'au bout, celui qui reste debout dans la foi, comme Josué et Caleb, ils ont cru, ils croyaient. Ils n'ont pas regardé les circonstances. Ils n'ont pas regardé aux difficultés. Ils croyaient ce que Dieu avait dit. La parole était dans leur cœur. La parole de la promesse divine. Et ils sont entrés dans la terre promise. Mais là aussi, il y avait encore des combats. Il y a suffisamment de croyants, oui, qui pensent que lorsqu'ils sont dans les promesses de Dieu, alors c'est le bonheur, c'est le soleil qui brille. Mais ce n'est que le début. C'est seulement que ça commence. Ce n'est pas une référence à notre époque, mais avez-vous compris cela? Cela ne fait que commencer. Ce n'est pas encore le royaume millénaire. Ce n'est pas encore le millénaire, non. Nous devons encore livrer de nombreux combats. Même en ayant les promesses de Dieu. Mais Dieu sera avec nous. Quelqu'un a dit quelque part dans le troisième exode a eu lieu et que tout est donc terminé. L'épouse est déjà appelée. Elle a été appelée à sortir. Elle est sortie précisément parce que l'exode a eu lieu. Et le frère a eu la répartie de dire à celui qui considérait que le temps de grâce était déjà terminé. Donc il a eu la présence d'esprit de dire à cette personne qui pensait que tout était terminé, que tout le monde avait déjà été appelé à sortir, et il lui dit, Dieu n'a pas pris plaisir à la plupart d'entre eux. Il a cité 1 Corinthiens 10 à ce frère. Et alors le silence est fait dans la salle, n'est-ce pas? On peut dire beaucoup de choses sans aller jusqu'au bout de la comparaison. Non, laissez-moi le dire clairement. Ça ne suffit pas de dire qu'on est sorti, mais de comprendre que ceux qui sont sortis, ce n'est pas tout ce qui plaisait à Dieu. Pour le bien de ceux qui ont des difficultés avec cela aussi, ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens 4 s'accomplira lors du retour direct du Seigneur, pas avant. C'est-à-dire que le Seigneur descendra lui-même à l'appel, au cri du commandement, cri de réveil. J'écris actuellement à ce sujet. Le cri de commandement, le cri de réveil est lié à la résurrection des morts. Car les morts doivent d'abord ressusciter. Et ensuite, nous devons être changés. Alors que l'appel de Matthieu 25 n'a rien à voir avec ceux qui sont entrés, qui se sont endormis. L'appel de Matthieu 25, le cri de Matthieu 25, le cri de réveil s'adresse à lieu maintenant et il est adressé à l'épouse, aux croyants, au milieu des croyants. Croyez-vous tous cela à 100%? Et celui qui lit correctement cette prédication de Frère Branham, sans une opinion préconçue, comme il en a souvent, de nos jours, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été préfabriquées. Il y a des maisons entières qui sont, n'est-ce pas, préfabriquées. Mais pour nous, il s'agit de toute autre chose. Pas d'opinion préconçue, mais une reconnaissance claire à partir des Saintes Écritures de ce que Dieu a promis et de la manière dont il le fait. Je suis conscient que Frère Branham s'est basé sur 1 Thessaloniciens 4 dans cette prédication. Il a mis cette prédication sur la base de 1 Thessaloniciens 4, donc la prédication de l'enlèvement, et il parle de l'appel au réveil, de la trompette, de la voix de l'archange, mais vous savez quoi? Il suffit de continuer à lire ici pour constater qu'il passe immédiatement, en fait, à Matthieu 25. Et il a dit 4 fois de suite, c'est maintenant le moment de purifier les lampes, de préparer, de nettoyer les lampes. Cela n'est pas écrit dans 1 Thessaloniciens 4. Mais c'est écrit dans Matthieu 25. Donc, si tout le monde comprenait qu'un prophète met le matériel à la disposition, à notre disposition, sans qu'il soit à chaque fois effectivement ordonné jusqu'à la fin, classé dans son contexte, il fait que nous donner le matériel. Je vous le lis dans le célèbre sermon de l'enlèvement, à la page 27, tout d'abord. Lorsqu'il se prépare à descendre du ciel, premièrement, l'appel au réveil retentit. Qu'est-ce que c'est? C'est un message pour rassembler les gens. Tout d'abord, il y a un message. Écoutez bien. C'est le moment de nettoyer les lampes. Levez-vous et mettez vos lampes en ordre. À quelle veille de la nuit cela se passe-t-il? À la septième. Non pas à la sixième, mais à la septième. Voici, l'époux vient. Levez-vous et nettoyez vos lampes. Ils le firent. Certains d'entre eux, se rendirent compte qu'ils n'avaient pas assez d'huile dans leurs lampes. Mais c'est le moment de purifier les lampes. C'est le temps de Malachie 4, verset 23. Malachie 4, chapitre 23. Et chapitre 4, pardon, verset 23. Et Luc 17. Toutes ces prophéties de l'Écriture s'appliquent parfaitement à ce temps. dans le temps nous sommes, dans lequel nous sommes. Et nous le voyons vivant parmi nous. Amen. Vous voyez de quoi il s'agit? Et c'est justement cette partie que tous les frères ont mis de côté, ont laissé. Je ne connais pas un seul qui prêche cette partie ou la fait ressortir. Ils prennent tous l'autre partie et disent que le réveil est le cri de réveil est le message. Et parce que le cri de réveil est le message et que le Seigneur le fait retentir, ça veut dire qu'il a quitté le trône de la grâce et que depuis plus de 20 ans, il est en train de descendre, de revenir. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu nous a simplement destiné à mettre ces choses en ordre. À mettre ces choses en ordre. Et elles sont dans les sermons. Il suffit de les trouver, puis de les classer bibliquement. Et alors, toute confusion prend fin. Parfois, cela vient sur moi. Je veux l'admettre honnêtement. Et alors, je pourrais vraiment prendre ces sermons qui sont mal compris par les frères et dire, frères, soyez raisonnables et sobres. Lisez donc le contexte. Le contexte. Remarquez-vous comment l'Esprit de Dieu l'a fait. Frère Branham avait lu 1 Thessaloniciens chapitre 4. Et ensuite, l'Esprit de Dieu l'a conduit à Matthieu 25. Et c'est là que se situe le sujet. C'est maintenant que l'appel est lancé, le cri. Voici que l'époux vient, l'époux vient. C'est maintenant. Maintenant, ce ne sont pas que, par ce cri de réveil, par ce message, ce ne sont pas les morts qui ressuscitent. C'est maintenant ceux qui se sont, qui dorment encore, sont secoués à se réveiller. Amen. C'est le temps maintenant. Ceux qui dorment spirituellement, de se réveiller. Nous en sommes reconnaissants. Que Dieu nous l'accorde, qu'un véritable réveil se produise. Et que nous soyons secoués, pas seulement cela, mais aussi que les lampes soient remplies, que les vases soient remplis. Nous voulons faire partie de ceux qui ne manqueront de rien. Coûte que coûte, quoi que ça coûte. Nous voulons être prêts quand le Seigneur reviendra. Car nous savons que seule la moitié était prête. Il s'agit de l'huile. De l'huile dans les vases, dans la cruche. Nous avons également lu à ce sujet dans le chapitre 9 d'Hébreux, il est parlé du rideau, du voile et de la table avec les pains de proposition et du chandelier. Puis au chapitre 9, au verset 3, Hébreux 9, verset 3. Mais derrière le second voile se trouve la partie de la tente appelée le lieu des saints. Avec l'autel d'or des parfums et l'arche d'alliance toute couverte d'or, dans laquelle se trouve la cruche d'or, contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fait éclore des fleurs, et les tables de l'alliance. Mais en haut, au-dessus d'elle, donc l'arche, se tiennent les chérubins de gloire qui couvrent de leur ombre la plaque de couverture, le propitiatoire. Que disons-nous ici? Du lieu très saint, de l'autel des parfums en or, de l'arche d'alliance recouverte d'or, de la cruche contenant la manne. Nous aimerions le souligner encore une fois. La manne cachée, c'est la parole tenue secrète, comme nous l'avons lu dans Ésaïe 48, dont on ne pouvait rien savoir auparavant. Donc, caché est caché. Reste caché. Révélé est ensuite révélé. Ce qui ne pouvait pas être vu auparavant peut maintenant être vu. Ce qui ne pouvait pas être entendu peut maintenant être entendu. Ce que les hommes ont interprété auparavant a été révélé maintenant. Et c'est la grande différence. L'interprétation et la révélation sont deux choses différentes. Lorsqu'il est écrit dans Matthieu 25 que les vierges sages prirent avec elles non seulement leur lampe, mais aussi la cruche d'huile. L'huile est toujours une référence au Saint-Esprit, ça nous le savons. Le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit révèle la parole. Le Saint-Esprit donne la clarté. Nous n'avons pas besoin d'un homme pour nous enseigner. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et de la manière dont il enseigne, c'est juste. Toujours le même enseignement, la même parole. Dieu ne peut pas parler deux langages. Il n'a qu'un seul visage. Il n'est qu'un seul Dieu. Il peut se manifester de multiples façons, mais il reste toujours le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Nous sommes reconnaissants pour la lumière, pour l'illumination, reconnaissants pour les lampes, reconnaissants pour le message, reconnaissants pour l'appel au cri de réveil qui est lancé maintenant, mais non pas pour faire sortir les morts, mais pour réveiller ceux qui se sont endormis spirituellement. C'est une grande différence. C'est ce qui se passe maintenant. Ne confondons pas les deux cris. Un cri retentit. Voici, l'époux vient. Préparez-vous, levez-vous pour aller à sa rencontre. Préparez-vous. Et que celui qui veut entrer avec lui se décide. Nous avons peut-être remis des choses à plus tard. Ce n'est plus possible. Le temps de la décision est arrivé. Celui qui veut servir Dieu doit commencer aujourd'hui. Celui qui veut lui appartenir doit le recevoir aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Ces choses n'ont plus de on ne peut pas les remettre à demain. Elles n'ont plus de délai, car le jour vient où il sera accompli. Celui qui est à l'intérieur est à l'intérieur, et celui qui est impur reste impur. Celui qui est dehors reste dehors. Le temps viendra comme au jour de Noé. La porte fut fermée, puis un peu de temps passa avant que le jugement n'arrive. Vous connaissez la prédication sur les âmes en prison. Le temps viendra encore où ceux qui n'entrent pas maintenant ne pourront plus y entrer. Le temps viendra où ceux qui ne peuvent pas revenir maintenant à la parole et se laisser corriger et sont et maintenant, ils voyageront d'une mer à l'autre pour chercher la parole et ils ne la trouveront plus. Le temps viendra aussi où les folles diront aux sages, « Donnez-nous de votre huile. » La réponse sera la suivante, « Ce n'est pas possible. Sinon, il n'y en aura pas assez pour nous-mêmes. Nous en avons juste assez pour nous. En as-tu assez? En ai-je assez? » Avons-nous été réveillés? Avons-nous compris l'importance du message divin? Nous n'avons pas le temps de philosopher sur des choses. C'est le temps de la préparation. Vous y croyez? Je le crois de tout cœur. Croyez-vous que cet appel qui est lancé maintenant? Croyez-vous qu'il est lancé maintenant à 100%? Je le dis, c'est tellement clair. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Tout s'accorde à merveille. Nous n'avons pas besoin de l'ajuster. Je lis dans ce sermon à la page 9, le troisième exode. Dieu n'oublie jamais sa promesse. Dieu n'oubliera jamais ses promesses. Au moment donné, à l'heure donnée, Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Vous devrez vous faire. Vous devez vous faire cette pensée que l'amen fait partie du culte. Et pas seulement à la fin, mais aussi de temps en temps. Il y a des centaines de milliers de services religieux. Des millions de personnes attendent l'amen à la fin. Et celui-ci arrive à la fin, l'amen. Et comme ils attendent que la réunion se termine, alors ils attendent l'amen. Mais il existe une église du Dieu vivant. Elle n'attend pas l'amen à la fin. Elle a compris que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Et lorsque nous entendons ces promesses dans la prédication, nous disons oui, nous disons amen, parce que nous sommes devenus une partie de la parole. Il faut que la vie vienne dans le corps du Seigneur. Le croyez-vous? Moi, je le crois. Et je ne crois pas que la parole vivante prêche des gens morts. Je crois l'inverse. Moi, je crois que la parole vivante fait sortir les morts pour les faire vivre et donner aux gens une décision. Écoutez encore une fois. Puis ne laissez pas Dieu attendre votre amen, s'il vous plaît. Pour moi, les choses deviennent de plus en plus précieuses. Je n'y peux rien. C'est ma vie. C'est le contenu de ma vie. Je ne pourrais plus être sans la parole, sans cela. Et quand frère Branham dit ici, vous devenez la parole. Vous êtes la parole. La parole est en vous. Vous êtes dans la parole. Alors c'est vrai à 100%. Nous sommes maintenant en train de vivre cela littéralement. Amen, amen. De vivre littéralement. Que chaque parole donnée à l'épouse est ensuite révélée, manifestée en elle et par elle. Confirmée en elle. Je lis encore une fois. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Amen. Pas même maintenant, pas même aujourd'hui. Jamais. À ce moment-là, à ce temps précis, Dieu tient toujours sa promesse. Accomplit toujours ses promesses. Alléluia. Gloire à notre Dieu. L'Éternel dit à Abraham, après 400 ans, je ferai sortir ton peuple. Dieu s'est souvenu de sa parole. Il s'est souvenu de sa promesse. Il l'a fait. Il a accompli toutes les promesses, chaque promesse. Et ce qui reste à accomplir, nous pouvons nous y fier. L'attendre avec confiance. Cela s'accomplira. Le Seigneur reviendra. Les morts en Christ ressusciteront. Les vivants seront changés. En Christ, changé. Ensemble, nous serons enlevés. Parce que Dieu l'a dit ainsi. Et nous le croyons ainsi. Et la foi est la victoire qui a vaincu déjà le monde. Il n'y a que deux possibilités. Soit nous nous laissons surmonter, ou alors nous surmontons. Et comme nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes, nous avons besoin de la foi. Et la foi est une substance divine. Dans notre langue, le mot foi est utilisé différemment. On dit, je crois qu'il va faire beau, ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il va pleuvoir. Le mot croire est toujours utilisé ici et là. Ici, nous n'avons qu'une seule possibilité d'application, à savoir croire Dieu. Et celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur. C'est ce qui est écrit. Donc, nous croyons Dieu. Pas seulement en Dieu. Ça, le diable le fait aussi. Le diable croit en Dieu. Et il tremble. Nous ne croyons pas seulement en Dieu. Nous croyons Dieu. Et nous croyons ce que Dieu a dit. Il est dit d'Abraham qu'il croyait Dieu. Pas en, il croyait Dieu. Et cela lui a été compté comme justice. Aujourd'hui, nous sommes la semence d'Abraham. Aujourd'hui, nous croyons Dieu. Et cela nous sera compté comme justice aujourd'hui. Alléluia! Ça, c'est la justification divine. C'est-à-dire de croire Dieu. Croire tout ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Je poursuis ma lecture. Détachons. Vous pouvez donc être sûr et vous reposer. Et vous reposer en sachant que Dieu fera ce qu'il a promis dans la Bible. Amen! Nous pouvons en être sûrs. Nous pouvons nous reposer sur le fait que Dieu le fera. Et je vous le dis, Dieu répond à la prière. Le Seigneur est présent. Oh, si seulement nous en sommes, nous pouvions en être conscients. Et que nous puissions compter sur lui. On m'a demandé récemment, oh frère bien-aimé, maintenant je sais comment c'était. Mais puisque j'ai commencé, je dois aussi l'achever. Il a demandé, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui a le don de guérison? Qui a le don de guérison? Et j'ai probablement répondu, non, pas que je le sache. Et j'ai dit, mais il y a celui qui guérit parmi nous. Je veux vous dire quelque chose. Nous croyons l'Écriture telle qu'elle est, telle qu'elle est. À tous les dons, à tous les ministères. Mais il se peut que Dieu se glorifie à la fin des temps sans que des personnes ne se promènent en disant « j'ai tel ou tel don » ou qu'on briole quelque part à la maison d'une dame parce qu'elle dit « je suis prophétesse ». Tous ces temps sont révolus. Maintenant vient le temps de Dieu. Le temps du Seigneur avec son peuple. Et toutes les choses qui se passent maintenant doivent se passer dans l'Église. Ce ne sont pas des réunions privées ici et une prophétie privée là qui doivent se dérouler. Tout ce qui se déroule doit se dérouler ouvertement, comme la prédication, comme l'enseignement, de même que tout le reste se déroule ouvertement. C'est-à-dire dans l'Église du Dieu vivant. Non pas un peu de cachotterie ici, par-ci, un peu de tripotage par-là, mais en vivant à nouveau dans la présence de Dieu, vivre la présence de Dieu, être dans la présence de Dieu en comptant sur le fait qu'il se manifeste. Je suis convaincu que celui qui aujourd'hui encore court ici et là, pour obtenir, comme on dit, une réponse de Dieu, ici et là, dans cette maison et dans une autre, ce sont justement ces gens-là qui ont le don de questionner les autres s'ils ne savent pas encore ce qu'ils font. Et puis vient la révélation, n'est-ce pas, de ces gens. Ces personnes n'ont pas encore compris que l'heure de Dieu est arrivée. Pas n'importe où, mais dans la maison de Dieu. C'est ici qu'il y a l'enseignement. C'est ici qu'il y a la réponse. C'est ici qu'il y a aussi l'aide. Si ce n'était pas le cas, nous pourrions fermer la Bible. Mais c'est ainsi. Sous la proclamation de la parole de Dieu, il y a le salut. Il y a la guérison. Il y a le baptême d'esprit et de feu sous l'écoute de la parole de Dieu. Il y a la délivrance. Tout Il y a tout, frère Kupfer. Amen. Oui, tout est là. Dans la maison de Dieu. Pas ici ou là, quelque part. Mais dans la présence de Dieu. Où tous l'entendent. Et tous le voient. Et personne ne se donne en spectacle. Mais où le Seigneur vient à sa place. Et que c'est lui qui est glorifié. C'est à lui qu'on regarde. Ce qui est écrit ici, mais précieux. Je le relis encore une fois. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Amen. Même pas ceux où deux ou trois sont réunis en son nom. Tel qu'il a dit cette promesse, il n'oublie pas non plus. Oui, je suis au milieu d'eux. Je n'ai même pas raconté le deuxième exemple. Vous savez que je ne suis pas du genre à raconter des histoires. Je viens toujours écouter, je viens toujours et directement je viens à la prédication, mais ce ne sont pas des histoires. Ce sont des expériences vécues lorsque notre cher frère Beat Munch s'est écrasé dans les montagnes, est tombé et qu'il a atterri, on ne sait comment, et en bas avec des fractures et toutes sortes de choses. Il était inconscient. Et il était aux soins intensifs, amené aux soins intensifs, et qu'on ne savait pas s'il allait vivre ou mourir. Il ne pouvait plus parler. Et vous connaissez, vous pouvez vous imaginer le cœur d'une mère, très difficile à supporter. Je savais qu'avant la réunion à Zurich, je me rendrai à Cour, là-bas à l'hôpital. Cure. Cela faisait longtemps que je n'avais pas tapé dans mes mains. Mais là, je l'ai fait. Parce que j'ai vu ce que Dieu avait fait. J'ai imposé mes mains. Et je n'avais pas fait attention à quelque chose. Il était couché sur le côté. Une oreille était dans l'oreiller. Et j'avais maladroitement posé ma main sur l'autre. Sur l'autre. D'habitude, on pose la main sur le front. Mais là, ce n'était pas possible. Il était couché sur le côté. Et quand j'ai dit Amen, je ne m'attendais pas en quelque sorte, à ce qu'il ait une réponse. Et quand j'ai levé la main, j'ai compris que je lui avais fermé l'oreille. Mais l'oreille de Dieu était ouverte. Et j'ai demandé avec foi à Beat, tu m'entends? Il a dit, oui, je t'entends. J'ai demandé, sais-tu qui je suis? Il a dit, tu es frère Franck. Et il m'a parlé il ne m'a pas parlé en allemand suisse, mais en allemand. C'était tout simplement merveilleux. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'étais tellement ému et touché entièrement. Et nous l'étions tous parce que nous avons vu la main du Seigneur. Et je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai dû frapper dans les mains, taper de mes mains, de joie. Cela ne m'arrive pas souvent dans la vie, de frapper les mains comme ça. On a plus souvent l'occasion de se plaindre que de louer, n'est-ce pas? De se lamenter que de louer. Mais quand Dieu fait quelque chose, nous devenons joyeux, pas se plaindre, lamenter. Nous devenons alors reconnaissants. Et depuis, j'ai déjà eu au moins 3 à 4 conversations avec lui et tout est simplement comme avant. Dieu a fait un miracle. Le Seigneur est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours et éternellement. Dieu n'oublie pas ses promesses. Lui, il n'oublie pas. Au moment, à l'heure précise, Dieu tient toujours ses promesses. C'est pourquoi vous pouvez vous y reposer en toute sécurité. Que Dieu fera ce qu'il a promis dans la Bible. Amen. À 100%, mon Dieu ne ment pas. Il est vrai, véritable, et il est fidèle. Il tient ses promesses. Il est Dieu, et non pas un homme. Il s'est fait homme pour devenir, pour diviniser l'humanité pour la ramener à la condition divine. Mais il reste Dieu dans toute l'éternité. Ce qui était caché, Dieu l'a révélé. Ce qui était resté secret, il l'a fait connaître. Ce que l'on ne pouvait pas comprendre, Dieu nous a fait la grâce, nous pouvons le comprendre maintenant. C'est le souhait de nombreux prophètes. Ils ont voulu voir ce que nous voyons, entendre ce que nous entendons. Nous avons le privilège de vivre à cette époque. Que Dieu ne se contente pas de nous bénir seulement. Il nous a déjà bénis. C'est une bénédiction pour moi d'entendre ce que l'Esprit dit aux églises en ces jours. Pour moi, c'est une bénédiction d'entendre la parole du Seigneur pure et claire. Pure et claire. Le Seigneur a béni et il continuera à bénir. Nous sommes les bénis du Seigneur. Loué soit son saint nom. Alléluia. Amen. Amen. Amen.